Bonsoir, merci d'être venu pour ce rendez-vous autour des collections consacrées au droit au logement. Donc, je remercie Christophe Robert qui a accepté de venir nous en parler. Christophe Robert est sociologue, délégué général adjoint à la Fondation Abbé Pierre et spécialiste de toutes ces questions liées au droit du logement.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, ce qu'on m'a proposé de faire, c'est d'essayer de rapidement, pour ensuite qu'il y ait un échange possible entre nous, de dresser un peu le tableau de la situation du logement et des difficultés de logement dans notre pays, et puis d'essayer de comprendre aujourd'hui quels dispositifs existent, les limites peut-être des lois et des dispositifs, parce que vous allez voir que la situation est plutôt très difficile, et puis peut-être ensemble évoquer un certain nombre de pistes d'évolution nécessaires en matière de réponse dans le domaine du logement dans notre pays. Alors, ce que je propose de faire, c'est je prenne un temps, moins une demi-heure, sur l'heure qui nous est consacrée, pour décrire cette situation, tant du point de vue des personnes que des politiques publiques, que des solutions, et puis ensuite que nous ayons un échange pour qu'on voit sur quel point vous seriez plutôt intéressé d'approfondir, ou des témoignages, ou de compléter, ou d'infirmer, parce qu'on a le droit aussi de ne pas être d'accord avec ce que je vais te dire. Grosso modo, juste peut-être deux mots sur la Fondation Abbé Pierre pour qu'on comprenne d'où je parle. La Fondation Abbé Pierre, elle a 20 ans cette année. Elle a été mise en place par l'Abbé Pierre avec deux objectifs principaux. Le premier, c'est aider les personnes. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que notre action, elle est dans une logique d'aide aux personnes en difficulté de logement, d'aide parce qu'on contribue à la construction de logements pour les personnes en difficulté, ou qu'on aide l'accès aux droits des personnes en difficulté, par exemple, ou de créer des lieux pour la journée des personnes qui sont sans abri, parce que souvent, on leur permet que de rester la nuit, et le matin, il faut quitter l'espace. Donc, une possibilité de déposer des bagages, de prendre un café, de rencontrer quelqu'un, d'avoir un accompagnement. Donc, il y a tout un volet qui concerne l'aide directe aux personnes. Mais il y a un autre volet, celui dont je m'occupe plus particulièrement, qui concerne la connaissance des situations et l'interpellation des pouvoirs publics. En gros, c'est un message fort que nous a laissé l'Abbé Pierre, qui est de dire « Ok, il faut qu'on aide les personnes pour qu'elles puissent avoir à manger, qu'elles puissent bénéficier d'un toit, mais de toute façon, les associations ne seront jamais en capacité d'apporter les réponses en nombre suffisant à tous ceux qui sont aujourd'hui exclus dans nos sociétés modernes. Donc il faut regardez ce qui se passe. Pourquoi ces difficultés sur le front du logement? On va en parler. Quelles politiques sont mises en œuvre? Est-ce qu'elles sont efficaces? Si oui, si non. Pourquoi? Faire des propositions aussi pour finalement, j'allais dire, ne jamais lâcher les responsables politiques sur la priorité que doit constituer, à nos yeux, mais je crois que c'est depuis longtemps la démocratie aussi, le rôle, par exemple, de l'État, que de protéger les plus faibles Un autre objectif, sans doute, qui est de rendre visible ce qui ne l'est pas. Vous allez voir que le problème dont je vais vous parler là, même un peu rapidement, il est massif. Il touche énormément de monde. Je suis sûr que dans cette bibliothèque, énormément de monde, qu'ils soient salariés, étudiants ou autres, sont confrontés à cette crise du logement. Et pourtant, il n'est pas posé comme un problème majeur de société. Il n'est pas traité par les responsables politiques à sa juste mesure. Donc, il faut rendre visibles ces phénomènes, il faut évaluer les politiques publiques, voir si le choix a bien été fait. Quand on utilise 1 million d'euros ici, est-ce que ça va vraiment pour ceux qui en ont besoin ou pas? Vous allez voir que c'est pas toujours le cas, ce qui est purement scandaleux, évidemment. Donc, la Fondation Abbé Pierre a cette double vocation, aider les personnes en situation de difficulté de logement et connaître et interpeller. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la situation du logement aujourd'hui? Grosso modo, elle est mauvaise, voire très mauvaise, et on peut la caractériser par deux chiffres importants. Tout d'abord, on compte aujourd'hui 3,6 millions de personnes qui sont mal logées. 3,6 millions de personnes mal logées, ça veut dire des personnes qui sont à la rue, qui sont dans des campings à l'année, qui sont dans des cabanes, qui sont dans des locaux commerciaux transformés en logements, dans des caves, dans des parkings. Je pourrais multiplier les formes de non-logement ou de mal-logement qui conduisent à ce chiffre de 3 600 000 personnes. C'est beaucoup, 3 600 000 personnes. Et si jamais on veut se pencher sur ceux qui sont pas forcément mal-logés, comme je viens de le dire, ou non-logés, comme je viens de le dire, mais auprès de ceux qui sont fragilisés par la crise du logement, et j'expliquerai de quoi il s'agit, eh bien au final, ce sont 10 millions de personnes qui sont touchées de près ou de loin par la crise du logement. Le passage de 3 millions 6 à 10 millions, c'est par exemple des gens qui sont logés, donc on ne peut pas dire qu'ils sont mal logés, mais par exemple menacés d'expulsion dans les 2-3 ans à venir, parce qu'ils ont une situation d'impayé de loyer qui les met sous le coup d'une menace juridique et d'une décision administrative d'expulsion. Donc voilà, 3,5 millions de mal logés, 3,6 millions, 10 millions de personnes touchées, bien sûr avec une intensité différente, être à la rue et dans un logement menacé d'expulsion, c'est pas la même chose, sauf que les expulsions peuvent alimenter la rue à un moment ou à un autre. Donc un problème massif, 10 millions de personnes, c'est beaucoup. Hein, en France, on est 65 millions. Un problème massif. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on en est arrivé à ces 10 millions. Donc là, je vais pas vous assommer trop de chiffres, mais je pense qu'il est, on en a parlé ensemble, important de comprendre que la situation que nous vivons aujourd'hui, en 2011, cette situation n'a pas toujours été celle-là. Et dans un passé récent, la situation n'était pas la même. Et d'autres pays européens ne sont pas confrontés à une telle exclusion par le logement. Donc ça, on pourra en discuter si ça vous intéresse. Mais il faut avoir quelques indicateurs qui montrent l'extension de la crise du logement. En gros, le phénomène qui a caractérisé ces 10 dernières années, c'est que, il y a 20 ans, pour faire vite, ceux qui rencontraient des difficultés de logement, c'était des personnes qui étaient en difficulté sociale, en difficulté économique, en difficulté d'insertion, pour faire vite. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, des gens qui bossent, et ça recoupe le problème des travailleurs pauvres, des gens qui n'étaient pas en situation de désinsertion sociale, se trouvent confrontés à une difficulté de logement. Et ça, on peut l'expliquer. Alors, je vais vous présenter juste quelques graphes avant de rentrer sur la question des politiques publiques. Ça, c'est déjà les évolutions des prix depuis 10 ans. Pour vous rendiez compte à quel point c'est pas tout à fait ce que les gens ont vu dans leur portefeuille augmenter ces 10 dernières années. La première courbe, c'est les prix de l'immobilier, c'est les prix de la vente. Ça a augmenté, en fait, plus 100%, ça veut dire que ça a doublé. C'est-à-dire que quand, il y a 10 ans, on achetait un bien sur le marché immobilier à 100 000 euros, aujourd'hui, il en vaut 200 000. C'est énorme. Vous connaissez pas des prix qui ont augmenté de telle manière, surtout des prix sur des biens qui ne sont pas des biens de consommation. C'est des biens de première nécessité, le logement. Donc ça a doublé. Aucune intervention publique pour maîtriser ces prix, c'est totalement libre dans notre pays. Et donc c'est parti en flèche. Et là, c'est toute la France. Hein. C'est-à-dire que quand on est à Paris, vous imaginez bien qu'on est plus que dans le doublement. C'est des niveaux moyens, juste pour vous donner un petit peu le ton. La courbe verte, c'est les loyers. Les loyers qui ont augmenté de 50% en 10 ans. La bleue, c'est les logements sociaux, je le passe. Mais en dessous, vous avez en violet, je ne sais pas comment on sait, 17%, c'est les prix à la consommation. Donc c'est la moyenne de l'évolution des prix. C'est 17% en 10 ans, pendant que les loyers, c'est 47%, et pendant que l'immobilier, c'est 100%. Je vous assure que ça explique beaucoup de choses dont on va parler tout au long de cette heure. Énormément de choses. Parce qu'en gros, aujourd'hui, l'ensemble des ménages, enfin, je parle des 10 millions, mais je peux étendre à 20 millions, le coût du logement est devenu trop important. Il est devenu trop important, et donc ça ne passe plus. Et quand on dit un coût du logement qui devient trop important, ça a plein de conséquences, mais je vais vous en donner 2-3. La première, c'est que il y a des gens qui n'arrivent plus à payer, tout simplement. Et donc, ils sont expulsés de leur logement. Les chiffres des expulsions, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais ils ont explosé en 10 ans. Faites-moi confiance, si vous voulez, on précisera les chiffres, je les ai en tête. Mais ça a d'autres conséquences qui sont moins mesurables que, par exemple, les expulsions. Ça a, par exemple, des conséquences sur les arbitrages financiers des ménages. Il y a des gens, parce qu'ils dépensent 50% de leur budget pour se loger, on va y revenir, eh ben, ils dépensent moins pour se soigner, ils dépensent moins pour s'alimenter. Et ça a des conséquences, évidemment, sur la santé. Et on pourrait prendre d'autres exemples. Et puis, ça a d'autres conséquences, c'est qu'à ces niveaux-là de prix, par exemple des loyers, eh bien, les personnes qui ne sont pas dans le logement aujourd'hui n'arrivent pas à accéder à un logement parce qu'il est trop cher. Et donc, les garanties demandées par les propriétaires font que c'est un blocage pour l'accès au logement. Autre point important, au-delà de ce constat lourd et froid, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça, je le disais tout à l'heure. Et vous allez voir que l'impact de ce coût, de l'évolution de ces coûts, n'a pas été le même selon qu'on est riche, selon qu'on est pauvre, selon qu'on est modeste ou selon qu'on est une classe moyenne. Alors, ça c'est la part du budget des ménages consacré au logement. Hein, c'est-à-dire, je gagne 1000 euros, enfin je gagne un SMIC net, c'est 1000 euros en France aujourd'hui. Hein, celui qui gagne un SMIC, il gagne 1000 euros. Eh bien, si on dit qu'il a un taux d'effort de 48%, là la plus haute, ça veut dire qu'il dépense 500 euros. Il dépense la moitié de son budget pour se loger. Et je voudrais attirer votre attention sur une évolution négative que peu de gens savent. C'est l'évolution de 92-2002-2006. En fait, la part que dépensent les plus riches, c'est les trois colonnes de droite, elle n'a pas évolué malgré ce coût du logement. Les plus riches, ces ménages aisés, c'est le quintile 5, c'est les 20% les plus riches, n'ont pas augmenté leur part de budget dans le logement. Donc ça n'a pas eu d'incidence sur leur budget, ni sur leur consommation, ni sur leur vie quotidienne. Par contre, ce coût du logement, le précédent graphe que je présentais, il a eu un impact considérable pour les ménages modestes, c'est-à-dire les 20% des ménages qui ont les ressources les plus faibles en France. Il n'y a pas que les pauvres là-dedans, hein. Il y a aussi les modestes. Donc, ça signifie que le coût du logement crée des inégalités nouvelles, accroît les inégalités dans notre pays, qui est un phénomène totalement nouveau. Quand je dis un phénomène totalement nouveau, je vais aussi vous donner un autre chiffre. Je suis désolé, mais je pense que c'est important de fonder la démonstration. En 1980, en moyenne, les ménages en France, ils dépensaient 25% pour l'alimentation et 13% pour le logement. Eh bien, aujourd'hui, ça s'est inversé. On dépense 13% pour l'alimentation et 25% pour le logement. Ce qui fait que le logement est devenu le premier poste de dépense des ménages en France. Et ça n'a pas toujours été comme ça, puisque, encore une fois, il y a 30 ans, la situation n'était pas la même. Alors, peut-être un autre graphe qui montre à quel point, non seulement ces difficultés de logement sont importantes pour les ménages en situation d'exclusion, enfin, le cercle des victimes de la crise s'élargit, mais ça a aussi un autre impact sur les inégalités, c'est par exemple ceux qui peuvent accéder à la propriété ou pas, et constituer un patrimoine, on y reviendra. En gros, entre 88 et 2006, c'est les deux enquêtes de l'INSEE disponibles sur ce sujet, c'est les deux barres du bas, les plus riches sont passés d'un taux de propriétaires de 65 à 76%, donc les plus riches sont de plus en plus propriétaires, en quelque sorte, et les ménages modestes, eux, sont de moins en moins propriétaires. Ce qui veut dire que le coût de l'immobilier, la courbe qui était en haut tout à l'heure, elle renforce les inégalités en ce qui concerne le patrimoine des ménages. Alors, il faut retenir donc deux choses. Le coût du logement a augmenté, il crée de l'exclusion croissante avec un nombre de personnes qui sont frappées de plein fouet par cette crise qui grandit chaque année. Donc c'est une dérive énorme. Et cette question du coût du logement accroît considérablement les inégalités dans notre pays. Et si on a le temps, on reviendra sur les inégalités tout à l'heure avec un autre graphe. Il faut bien comprendre que ces difficultés de logement, parce que derrière ces chiffres, quand je vous parle de 3 millions, 6, 10 millions, à chaque fois, c'est une famille ou une personne. Hein, et ça a des conséquences énormes sur la question de la santé, on a un petit peu dit déjà, sur la vie sociale, ça a des conséquences sur l'emploi. Par exemple, une étude vient de sortir et montre que beaucoup de gens ne sont pas en mobilité dans l'emploi parce qu'ils ont peur de se confronter au marché du logement en lâchant leur logement. C'est-à-dire, si je quitte mon logement, je vais me confronter à un marché où je ne suis pas sûr de trouver. Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent d'abord le logement et après l'emploi. C'est-à-dire, on marche sur la tête. Des conséquences sur la vie sociale, bien sûr pour ceux qui sont à la rue, bien sûr pour ceux qui sont dans des situations de mal logement. Je pense à une personne qu'on a rencontrée il n'y a pas longtemps qui nous disait qu'elle vivait dans une cave avec ses deux enfants et payait cher. 700 euros la cave. La CAF avait considéré que d'ailleurs ce logement était impropre à l'habitation. Hein, donc ça avait été acté avec juriste à l'appui, etc. Mais cette personne, avec ses deux enfants, vivait là-dedans et payait 700 euros depuis deux ans. Et moi, ce qui m'avait frappé dans son témoignage, pour vous dire sur les conséquences sociales, elle nous dit, moi, le plus dur, c'est que je suis obligé de dire à mes gamins de ne pas accepter les invitations des copains parce que je ne serais pas en capacité de les rendre. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on habite dans une cave. Je pourrais multiplier les exemples comme ça douloureux, mais qui traduisent bien à quel point ça produit des violences sociales importantes au quotidien. C'est d'autres formes, par exemple, de personnes qui sont obligées de faire appel à la solidarité de proximité, le voisin, le cousin, l'oncle, je ne sais quoi, lorsque l'on est expulsé, qu'on va accueillir chez soi en disant « bon bah viens chez moi, je vais pas te laisser à la rue ». Puis ça va durer qu'un temps, puis en fait ça dure pas qu'un temps parce qu'on se confronte après au marché et on trouve pas de solution et ça crée des tensions très fortes entre l'hébergé et l'hébergeant, mais ça crée des tensions aussi d'autres situations au sein du couple, au sein des relations entre les relations parents-enfants très importantes qui sont pas mesurables dans la statistique, mais par exemple 600 000 enfants aujourd'hui sont en situation de mal logement et ça a des impacts non seulement aujourd'hui sur ces enfants parce qu'ils vivent dans des mauvaises conditions, un logement pourri qui va faire qu'on a des bronchites, des bronchiolites à répétition tout le temps. Mais ça a un impact aussi sur leur avenir, par exemple. On a pu aujourd'hui démontrer à quel point, par exemple, être dans un logement surpeuplé, ça provoque de l'échec scolaire, ça produit de l'échec scolaire parce qu'on peut pas faire ses devoirs. Le nombre de gamins qu'on rencontre à la Fondation qui sont dans des logements pourris ou des logements trop petits qui font leur cours dans les toilettes, dans la cage d'escalier, dans la voiture pour ceux qui ont des parents qui ont une voiture, pour s'isoler, trouver un petit temps. Tout ça, je pourrais passer des heures à vous multiplier ces situations qu'on rencontre et qui produisent des situations sociales extrêmement difficiles. Des couples qui veulent se séparer mais qui savent bien que trouver deux logements avec un sale... diviser en fait le poids du logement parce qu'il faut chercher deux logements, quoi, parce qu'on se sépare, qui reste dans le même logement, etc. etc. Le temps ne permet pas de multiplier, mais pour que vous mesuriez que ce n'est pas que une question de statistiques publiques, mais que c'est des violences très importantes chaque jour. Alors, maintenant, ce que je propose, parce que le temps passe, c'est d'essayer de décrypter le pourquoi de cette situation. Comment a-t-on pu en arriver là ? Dans un pays riche, quand même, hein, 5e, 6e puissance mondiale, je suis en train de vous parler d'une personne sur 6 qui est victime de la crise du logement. C'est scandaleux. Enfin, je veux dire, vous diriez ça, on se serait dit ça il y a 30 ans, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on en arrive là. Et pourtant, on y est bien. Alors, plusieurs facteurs en cause ou à l'origine de cette situation. Elles ne sont pas hiérarchisées, mais je vous les donne. Premier facteur, il manque de logements. On a en France un déficit très important de logements, qui fait que ce manque de logements crée de la concurrence entre les uns et les autres. Une lutte des places, comme nous on l'appelle, hein, c'est-à-dire celui qui va choper le logement ou qui ne va pas choper le logement. Ce manque de logements a un impact effectivement très fort parce que c'est un marché et donc il faut bien trouver sa place dans ce marché. Ce manque de logements, ce déficit qui est aujourd'hui évalué à 900 000 logements, il manque 900 000 logements en France aujourd'hui, s'explique par une construction insuffisante depuis 25 ans. C'est-à-dire que chaque année, on n'a pas construit assez de logements par rapport aux besoins produits dans l'année. Les besoins de l'année, c'est quoi ? C'est les séparations conjugales, ça veut dire deux logements au lieu d'un. C'est les jeunes qui veulent décohabiter de chez leurs parents. C'est l'immigration. C'est le renouvellement naturel des logements qui sont pourris, qu'on démolit. En gros, chaque année, il y a un besoin de logement et il y a une construction. Et la construction est toujours inférieure, et de loin, aux besoins en logement de l'année. Donc, petit à petit, un déficit s'est creusé, qui conduit aujourd'hui à ce que je vous donne ce chiffre de 900 000. Donc, d'abord, on n'a pas assez construit. Faut bien comprendre que cette lutte des places pour avoir un logement, elle a des répercussions très fortes en domino. C'est-à-dire que quand vous avez autant de monde qui cherche un logement et qu'il en manque autant, vous êtes sûr que les plus fragiles sont les derniers servis. Et c'est ce qui fait qu'il y a eu une multiplication des populations les plus fragiles, financièrement ou socialement, qui ont été renvoyées vers... les caves, les parkings, le camping à l'année, ces phénomènes qu'on voit émerger très fortement depuis une dizaine d'années. Forcément, puisque c'est un jeu de concurrence sur un marché, en dehors du logement social, qui lui est une filière un peu particulière, dont on parlera, eh bien, les plus fragiles sont mis sur la touche. Plus il y a de monde en difficulté de logement, plus les plus fragiles sont loin de trouver une solution, et c'est bien ce qui nous inquiète à la Fondation Abbé Pierre aujourd'hui. Donc, premier facteur, le manque de logement. Deuxième facteur, une absence totale dans notre pays, je dis bien dans notre pays parce que c'est pas partout pareil, d'intervention sur les prix. Les prix du foncier sont complètement libres. Les prix de l'immobilier sont complètement libres. Les prix des loyers, quand ils sont remis à la location, sont complètement libres. Il n'y a aucune intervention. C'est hallucinant. Il y a encore quelques années, par exemple, quand vous mettiez un logement à la relocation, il était plafonné. Il y avait un indice de référence qui permettait de dire, ah ben non, monsieur, vous ne pouvez pas l'augmenter de 10%. Les prix moyens localement, c'est plus 2% cette année, restez raisonnable. Non, aujourd'hui, c'est totalement libre. Et donc, ça conduit aux chiffres que j'évoquais tout à l'heure, mais aux dégâts sociaux que je viens d'évoquer à l'instant. Donc, le deuxième problème, il est là. C'est-à-dire qu'il y a une croyance dans nos responsables politiques, pour le coup, de droite comme de gauche, si je prends les 25 dernières années, au fait que le marché va finir, au final, par trouver une place à chacun. C'est-à-dire que ça va... S'il manque de logements, on va construire plus. Si les logements sont trop chers, ils vont finir par baisser parce que le marché s'auto-équilibre. C'est faux. Et je ne suis pas en train de vous faire un discours idéologique. Je suis en train de vous faire un discours sur la réalité de l'évolution des prix et la réalité des dégâts que cela provoque. Donc, par exemple, des pays, l'Allemagne, les pays nordiques, ont eu toute autre conception sur le foncier qui appartient un peu à tout le monde, sur les loyers qui ne peuvent pas augmenter de plus de temps. Et puis, il y a la question des charges. Également, qui, vous voyez bien le débat aujourd'hui, on nous annonce qu'il va y avoir 10% d'augmentation du gaz. 10%. Alors on peut se dire, oh bah ouais, mais les indicateurs sont ceux-là. Non, mais on s'en fout des indicateurs. Ce qu'il faut voir, c'est une évolution, on ne dit pas tout bloqué, mais une évolution qui soit raisonnable, qui soit en fait régulée. Donc ça, c'est le deuxième facteur. C'est-à-dire que, pas assez de logements, une liberté totale sur les coûts, sur le prix du logement à travers encore une fois, du foncier jusqu'aux charges en passant par les loyers, qui pose un problème majeur. Le troisième élément, c'est une ville qui est en train de se spécialiser spatialement. Je vais m'expliquer. C'est le troisième facteur. C'est que dans ces conditions que nous venons de décrire, la ville est en train de se spécialiser. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont réservés à ceux qui peuvent se payer, proche de leur lieu de travail, proche de là où ils ont envie d'être, et ceux qui sont de fil en aiguille renvoyés toujours plus loin des centres-villes, de leur lieu de travail, et qui fait que la ville est en train de se segmenter de manière très très violente. En gros, à chaque vente nouvelle, à chaque location nouvelle, la ville se sépare de plus en plus. Vous voyez bien qu'il y a des territoires qui sont les seuls, finalement, où les catégories modestes peuvent accéder, parce que le logement reste un peu moins cher, qui sont fléchés de fil en aiguille, sans s'en rendre compte, d'ailleurs, en disant, bah, je me confronte au marché, voilà, c'est sûr que c'est pas possible, bon, bah, je vais essayer là, bah, là non plus, c'est pas possible, même en réduisant la taille du logement, même en réduisant la qualité par rapport à ce que j'avais en tête, eh bien, je me retrouve à aller très très loin. Donc, on a une segmentation, une spécialisation spatiale, une ségrégation territoriale qui s'accroît considérablement dans notre pays, du fait de ces effets de marché, d'exclusion d'une partie de la population. En gros, ceux qui font vivre la ville n'ont pas le droit d'y vivre. C'est ça que ça veut dire, pour beaucoup d'entre eux. Et on voit bien ce phénomène, par exemple, pour ceux qui nettoient, les sociétés de nettoyage, pour les bureaux, etc., qui nettoient souvent les heures avant le travail ou après le travail des autres, et qui sont obligés de se taper 1h30, 2 heures de transport, avec des conséquences très importantes sur la vie quotidienne. Pas besoin de faire un dessin. Et puis, dernier facteur, on a des outils de protection pour les plus faibles, c'est-à-dire ceux qui sont en difficulté de logement, qui sont pas assez opérants aujourd'hui dans notre pays, c'est-à-dire pour limiter les expulsions locatives, pour lutter contre l'habitat pourri, qui fait le beurre des marchands de sommeil, qui profitent de cette situation pour louer cher des trucs pourris. Et ça, c'est quelque chose qui est purement scandaleux, c'est-à-dire que cette absence de maîtrise du marché produit des effets où certains profitent de la pauvreté en vendant cher un bien pourri ou en louant cher un bien pourri. Et ça, c'est particulièrement douloureux parce que ceux qui se collent à ce type de loyer sont souvent ceux qui, personnes qui sont sans papier, personnes qui sont sans droit, personnes qui savent très bien que ce sera les derniers services sur le marché et qui n'ont pas d'autre choix que de se rabattre vers des solutions de ce type. Donc, construction insuffisante qui conduit au déficit, absence de régulation qui conduit à l'augmentation considérable des coûts du logement, ségrégation territoriale accrue qui fait que ça menace la cohésion de notre société, c'est une évidence, et filet de protection pour les plus faibles qui sont inopérants aujourd'hui. Alors vous allez me dire, ouais, mais on a entendu parler d'une loi qui s'appelle le droit au logement opposable, le DALO. Alors, c'est très intéressant du point de vue de l'analyse, c'est assez insatisfaisant pour les mal logés. En gros, qu'est-ce qu'on peut dire de cette loi qui est censée répondre un peu à ça, hein. C'est comme ça qu'en tout cas elle a été présentée au moment où elle a été votée, rappelez-vous, après le canal Saint-Martin et l'action des enfants de Don Quichotte. Quand le politique est mis comme ça devant ses responsabilités, il lui faut sortir quelque chose. Il lui faut sortir de crise en donnant quelque chose. C'est le principe du bras de fer, vous allez me dire, avec le milieu associatif. Et donc, qu'est-ce que notre président de la République de l'époque a sorti du chapeau ? Le droit au logement opposable. Alors, deux choses. La première, un droit qui protège les plus faibles, c'est toujours quelque chose d'important. Je crois qu'il ne faut pas cracher sur ce droit. Un droit qui dit la puissance publique, l'État, a le devoir de loger ceux qui sont exclus du logement, qui sont fragilisés par rapport au logement, c'est quelque chose de très important en termes de protection des individus. Mais force est de constater, puisque ce droit est en application depuis le 1er janvier 2008, force est de constater que c'est pas parce qu'on a un bon droit, que nous considérons bon, en tout cas la Fondation Abbé Pierre, que derrière, la politique se met en place pour le mettre en œuvre. Et là est le problème du DALO. En gros, aujourd'hui, le bilan, c'est 200 000 ménages qui ont déposé un dossier au titre du droit au logement opposable. Entendons-nous bien, ceux qui peuvent bénéficier de ce droit, c'est ceux qui sont en situation de grande précarité, hein, dans des logements dangereux, en surpeuplement très fort, à la rue, menacés d'expulsion sans solution, etc. Aujourd'hui, on est en décembre 2011, ça fait plus de 3 ans, ça va faire 4 ans, 2009, oui, c'est ça. On a donc 200 000 ménages qui ont déposé un dossier, il y a environ 20 000 personnes qui se sont vues proposer un logement au titre de ce droit. Vous voyez un peu comment les proportions par rapport à l'ampleur du phénomène et la non-application par les pouvoirs publics de ce droit. Mais cette démonstration sur le DALO, elle vaut pour tous les dispositifs des politiques publiques qu'on pourrait évoquer. En gros, tant qu'on n'agira pas sur ce qu'on vient de dire, sur le déficit et sur les prix, on n'en sortira pas. On n'en sortira pas. On ne pourra pas mettre en œuvre le DALO. C'est-à-dire, mettre en œuvre le DALO, c'est pas simplement avoir une bonne loi. C'est pas simplement avoir des juges qui jugent. C'est pas simplement avoir des associations qui accompagnent les mal logés pour faire valoir leurs droits. C'est avoir des logements. La question, elle est là. Elle n'est pas dans un droit bien ficelé, bien huilé. Et je crois qu'on pourrait décliner ça de beaucoup de dispositifs en matière de politique de la ville, en matière d'hébergement des personnes sans abri. Ces dispositifs, on les fait évoluer. Et on travaille beaucoup les associations à les faire évoluer. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'on fasse en termes de dispositifs, quoi qu'on fasse en termes de loi, si on n'intervient pas sur le cœur du problème, c'est-à-dire un nombre de logements à loyer accessible, c'est-à-dire économiquement en phase avec ce que gagnent les gens, des plus faibles jusqu'aux modestes, jusqu'aux classes moyennes, inférieures, eh bien, on ne pourra pas mettre en œuvre ces bons dispositifs ou ces bonnes lois. C'est une évidence. J'allais dire, il n'y a pas besoin d'être économiste pour comprendre ça. Eh bien, c'est ça la situation. Donc après, on peut discuter de tous les dispositifs que l'on veut, ou des lois comme le DALO, si, de fait, on ne met pas en place une politique du logement qui intervient sur cette production massive, là où on en a besoin, sur ces prix pour qu'ils soient en phase avec la capacité financière des gens, avec une logique de meilleure répartition du logement accessible pour lutter contre la ségrégation territoriale, on ne pourra pas sortir de la crise du logement. C'est une évidence. Et c'est ce qui fait que la Fondation Abbé Pierre, même si son cœur d'intervention, c'est les plus défavorisés dans l'action, dans la réponse à apporter, elle a été contrainte au fil de ces 10 dernières années, avec ce glissement qui s'est opéré, de ne pas simplement traiter le problème du logement des personnes défavorisées, mais de traiter de l'ensemble des catégories qui sont confrontées à la crise du logement, c'est-à-dire les catégories modestes et désormais les classes moyennes inférieures. Parce que tout ça est lié, parce que je l'ai dit, c'est un effet domino, et puis parce que quand vous voyez des catégories modestes qui sont en souffrance de logement, on a aussi le devoir d'intervenir là-dessus. Donc ce glissement, cet élargissement de la crise du logement et de ses victimes, eh bien, doit être au cœur de l'intervention politique que nous autres, citoyens, associations, responsables associatifs, politiques ou je ne sais quoi, faire que cette question du logement soit une priorité, par exemple des élections présidentielles. Et c'est pour ça qu'on a lancé une grande mobilisation générale pour le logement, avec une campagne de signatures autour de ces axes, en gros, que je viens d'évoquer, produire plus et mieux, réguler les prix, lutter contre la ségrégation territoriale pour une ville solidaire, durable, en cohésion, protéger les plus faibles. Et donc, on va porter tout ce travail auprès des candidats à l'élection présidentielle, avec une logique derrière, qui est de dire une bonne politique du logement, ça va permettre à ces 10 millions de personnes de vivre mieux d'abord. C'est ça l'objectif. Ça va permettre de limiter les inégalités dans notre pays, alors que le logement, on l'a vu, accroît les inégalités. Mais une bonne politique du logement, c'est pas seulement lutter contre l'exclusion par le logement ou les inégalités par le logement, c'est aussi avoir un impact sur la santé, on l'a dit, sur l'environnement. Le bâtiment est le premier consommateur d'énergie en France. Donc une politique du logement digne de ce nom aura un impact aussi, aura un impact sur l'emploi, parce que le bâtiment, c'est un gros pourvoyeur d'emplois. Donc si on se lançait dans une grande mobilisation sur la production de logements à loyer accessible, bien répartis, il y aurait une dynamique aussi pour le pays. Et puis je crois, et je finirai là-dessus avant qu'on débatte, je crois que même si ça coûte un peu une politique du logement, parce qu'il faut construire, c'est compliqué de construire, et que ça coûte cher de construire, je pense que au final, on a un retour sur investissement. C'est-à-dire que c'est digne d'une société moderne que d'anticiper les coûts de l'exclusion pour les injecter en amont et éviter les catastrophes sociales. Deux exemples pour traduire ça. Quand vous expulsez, on sait aujourd'hui, on connaît bien la question des expulsions à la Fondation, on sait qu'aujourd'hui, ça coûte moins cher d'intervenir en amont pour éviter l'expulsion locative, en orientant les personnes, en échelonnant la dette, en trouvant des solutions, en les accompagnant vers une recherche de solutions, que ensuite de devoir accompagner une personne qui est à la rue. Ça coûte très cher, par exemple, les hôtels utilisés pour les personnes seules ou les femmes seules avec enfants, qui sont très 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 majoritairement parmi les mal logés concernés par le mal logement. Je l'expliquerai tout à l'heure. Intervenir en amont coûte moins cher que les dégâts derrière sur lesquels il faut intervenir. On parle par exemple du coût de l'hôtel qui est utilisé en urgence parce que tout d'un coup on a quelqu'un qui est là, il faut bien le mettre à l'abri pour la nuit. Ça coûte 1 million d'euros par jour rien qu'à l'État. Mais les villes aussi payent pour ça et il n'existe pas de chiffre, donc on n'a pas de chiffre. Donc intervenir en amont, c'est plus pertinent. Et puis, par rapport à la question de santé, à la question sociale qu'on évoquait, intervenir en amont, c'est aussi éviter des catastrophes sociales, c'est éviter des coûts sociaux et des coûts économiques. Donc je pense qu'il y a nécessité de changer de logique pour se dire que cet investissement, il est de toute façon, à mon sens, indispensable, mais il va être aussi producteur d'économies sur le long terme, et je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, on a quelques indicateurs qui le donnent. Voilà, je ne vais peut-être pas aller plus loin, et puis peut-être passer un temps d'échange si vous avez des questions ou si vous voulez compléter ce que je viens de dire.
Est-ce que vous voulez poser des questions, intervenir ?
Il existait une loi qui s'appelait la loi 48, et peut-être serait-il d'actualité de repenser à lancer quelque chose de cette nature.
Oui, on va prendre peut-être plusieurs questions.
Oui, merci monsieur pour votre exposé. La crise du logement, le gouvernement Jospin avait tenté une politique imposant aux communes un pourcentage de logements à caractère social. Et cette disposition était, à mon avis, bien vue, parce qu'en définitive, quelqu'un qui n'a pas de logement habite quand même une commune. Donc c'est normal d'imposer une politique publique aux communes. Et où en est cette politique? Est-ce qu'on peut rapprocher la crise du logement, le droit au logement, du fait que justement les communes peut-être n'ont pas tellement suivi cette politique-là. Merci.
Moi, je voulais. On entend parler justement dans les politiques de logement. Aujourd'hui, ce qui est surtout mis en avant quand on entend les différents gouvernants, c'est l'aide à l'accès à la propriété, justement. C'est que la politique est axée là-dessus. Et je voulais savoir quel était l'impact en termes, je pense, d'accélérateur de l'augmentation des prix. Et surtout, la comparaison entre ces sommes d'argent consacrées au privé, en fait, et les sommes d'argent consacrées au logement social. Si. Il y a un pourcentage, parce que je pense que c'est assez déséquilibré, justement.
Sur les deux lois qui ont été évoquées, loi 48 et la loi de solidarité et renouvellement urbain, la loi de SRU. Oui, enfin, sur la loi 48, effectivement, ce qui était intéressant, donc en fait, c'est une loi qui a bloqué l'évolution des loyers pour un certain nombre de logements. Alors, moi, j'ai une analyse un tout petit peu plus nuancée. Vous avez pas... Mais il faut être assez vigilant sur une chose. C'est-à-dire qu'un des effets extrêmement positifs de cette loi, c'est que les personnes ont pu rester dans leur logement sans voir augmenter les loyers. Or, donc ça, c'est très, très intéressant de ce point de vue-là. Nous, c'est vrai qu'on est plus sur un processus qui n'est pas le blocage total, qui serait une évolution... qui soit normal dans le sens où si des investisseurs, des propriétaires s'aperçoivent qu'ils n'ont pas intérêt à mettre du logement à disposition sur le marché un intérêt économique, ils risquent de se déporter sur d'autres investissements que le logement. Et on sait que le logement social ne suffira pas à loger tous ceux qui ont besoin d'être logés aujourd'hui. Un autre effet pervers qu'a eu la loi 48, mais je vais revenir sur ces aspects positifs, c'est que, du coup, les propriétaires n'ont pas fait les travaux. Et ces logements se sont dégradés au fil des années, considérant que, ben voilà, on leur disait, vous n'augmentez pas vos loyers, ben nous, on n'intervient pas dessus. Or, c'est de la responsabilité, et c'est là où il faut trouver un équilibre. Donc c'est vrai que nous sommes plutôt en train, nous, de réfléchir à des outils qui font que l'évolution des loyers... soit en face, par exemple, avec l'évolution des APL ou l'évolution du coût de la vie, pour que ça soit une progression qui soit normale, ou des salaires, ou du RSA. C'est-à-dire que de dire il faut la maîtriser, la bloquer complètement peut avoir quelques effets pervers. Alors, en tout cas, elle a eu des effets pervers avec la loi de 48, et sans doute elle en aurait encore aujourd'hui beaucoup plus vu la fluidité du fric. De part de cette société moderne. Et donc, il faut trouver un équilibre pour que les investisseurs viennent mettre du logement sur le parc locatif, alors qu'il en manque beaucoup. Et par exemple, les investisseurs, les banques, les retraites, les caisses de retraite, etc., se sont retirés il y a 20 ans du logement pour aller mettre de l'argent ailleurs, en bourse ou je ne sais où. Et ça a eu un effet considérable sur la crise du logement. C'est-à-dire que le fait qu'ils soient partis, ben, ça veut dire qu'il n'y avait plus de logement qui était construit à ce titre-là. Donc il faut qu'on soit vigilant, mais elle avait le mérite d'avoir une lecture sur le marché qui est de dire on fait pas n'importe quoi. Je suis pas autorisé à faire n'importe quoi. Alors je me dis qu'entre le aujourd'hui je peux faire ce que je veux quand je suis propriétaire et la loi 48 je ne pouvais plus rien faire, il y a sans doute un équilibre à trouver. Sur la loi SRU, vous avez raison, monsieur, c'est une excellente loi. D'abord parce qu'il faut intervenir sur l'égoïsme de communes qui ne veulent pas construire du logement social. Alors cette loi, le bilan, c'est quoi ? On en est 10 ans après son application, elle a été votée en 2000. Grosso modo, il y a un aspect négatif du bilan, c'est que toutes les communes ne respectent pas la loi. À peu près 40% des communes aujourd'hui ne respectent pas la loi. Ça, c'est pas normal. C'est inacceptable. 20% de logements sociaux en 20 ans, parce que c'était grosso modo ça l'objectif, c'est pas beaucoup, et c'est beaucoup de temps. C'est pas beaucoup 20%, et 20 ans c'est beaucoup. Donc il n'y avait aucune raison de ne pas l'appliquer, si ce n'est que volontairement, le maire ne veut pas faire l'effort de partager l'effort du logement social à l'échelle du territoire. Alors, là où elle a eu un effet positif, là où c'est intéressant, c'est qu'elle a quand même poussé des maires qui ne faisaient rien à faire. C'est les 60% autres. Et les 40%, je pense, qui finiront par s'y coller. parce que progressivement, on voit augmenter le nombre de communes qui le font, parce que politiquement, ça devient un enjeu. Donc voilà, une loi très intéressante, parce que maintenant, c'est les citoyens qui s'en sont saisis et qui disent, mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire? On a 5% de logements sociaux dans notre commune, on fait 20 km, l'autre ville, elle en a 40%. Pourquoi vous feriez pas, vous, 20%? Et ça, c'est aussi une mesure qui lutte contre la ségrégation territoriale, la spécialisation spatiale. Donc elle est très bonne pour ça, parce qu'elle fait produire plus de logements sociaux, elle lutte contre les égoïsmes locaux et elle répartit mieux le logement social. Pour vous donner un chiffre sur comment le logement social est mal réparti, par exemple en Ile-de-France, vous avez 50% des logements sociaux en Ile-de-France qui sont dans 9% des communes. Donc c'est toujours les mêmes qui font les efforts et toujours les mêmes qui ne font pas les efforts. 50% du logement social dans 9% des communes, c'est pas du tout acceptable. Là où elle a évolué positivement, c'est que nous on s'est battu, hein. C'était le dernier combat de l'abbé Pierre. Il a dû monter à l'Assemblée nationale au perchoir pour dire « mais vous êtes devenus fous ». Jusqu'au jour où, après 2 semaines de pression, Borloo disent bon bah ok, on arrête tout, on remet pas en cause la loi SRU, mais ça fait 5 ans que une partie de nos responsables politiques veulent la mettre à mal parce qu'ils aiment pas qu'on impose, ils aiment pas qu'on contraigne. Or c'est exactement ça qu'il faut faire, imposer et contraindre, parce qu'il y a aucune raison, ça va rejoindre la troisième question, qu'un certain nombre de personnes se fassent un fric fou sur cette évolution des prix. Et j'y viens donc. Oui, il y a un problème. Parce que ces prix qui doublent en 10 ans, ça enrichit une toute petite partie de la population de manière considérable. Vous imaginez, si vous aviez les moyens, vous, d'avoir 10 logements que vous achetiez en 2000, 5000 euros, enfin ça, on va dire 100 000 euros, donc 1 million d'euros pour 10 logements, aujourd'hui vous les revendez, vous avez fait une culbute d'un million d'euros. Imaginez comment le business autour de la question immobilière est énorme. Et en gros, ceux qui ont la capacité d'investir dans la pierre, dans l'immobilier, s'enrichissent de façon considérable. Mais considérable, hein, c'est pas des petites sommes. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous présenter un graphe, je l'avais annoncé tout à l'heure, sur la question du patrimoine, hein, et des inégalités. Ça, c'est les derniers chiffres que vient de publier l'INSEE. Vous avez donc les 10% des ménages les plus riches ont 48% du patrimoine. Bon. Les 50% des ménages les moins riches ont 7%. Les 50%, hein, la moitié de la population se partage 7% du patrimoine en France. Et pour beaucoup, c'est à cause, ou grâce, selon où on se situe, de l'augmentation des prix de l'immobilier. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a toujours eu des riches, il y a toujours eu des pauvres. Va pas nous faire la leçon, le type de la Fondation Abbé Pierre. Sauf que ça évolue extrêmement négativement, c'est-à-dire que ça s'accroît, ces différences, notamment à cause de l'immobilier. Et regardez, il faut juste regarder la colonne de droite. Le patrimoine moyen D1, c'est les 10% des ménages les plus pauvres. D10, c'est les 10% des ménages les plus riches. Bon, bah, il y a un écart de patrimoine, je vous passe les détails des chiffres. Mais entre 2004 et 2010, les plus riches, les 10% les plus riches, ont vu leur patrimoine augmenter de 47,6%. Tandis que les 10% des moins riches ont vu augmenter de 9%. Donc, à cause, ou à grâce, encore une fois, de l'immobilier, les inégalités de patrimoine, par l'accès à la propriété ou la multipropriété, accroissent considérablement les inégalités dans notre pays. Donc, en gros, et c'est un phénomène nouveau, il y a 20 ans, on ne disait pas ça à la Fondation Abbé Pierre quand elle a été créée et qu'elle a fait son premier rapport. On ne disait pas ça parce que ce n'était pas comme ça que ça se passait. Mais ce qui s'est passé, c'est que désormais, le logement produit davantage d'inégalités et même, j'allais dire, au cœur des inégalités qui se structurent ou qui s'accroissent dans notre pays. Alors oui, les aides publiques, oui, bien sûr. Si les aides publiques sont orientées vers, pas les plus pauvres, parce que de toute façon, les plus pauvres ne peuvent pas accéder à la propriété. C'est une évidence. Mais si on se situe catégorie modeste, classe moyenne, riche. Si les aides qui sont octroyées par l'État, par exemple, pour accéder à la propriété, ne sont accessibles qu'à une petite frange de la population, ben elles contribuent à renforcer ça. Alors qu'on pourrait flécher des aides à la propriété vers les catégories modestes, ceux qui sont justes, une classe moyenne inférieure, qui, dans les conditions actuelles du marché, ne peuvent pas être propriétaires, mais avec une aide de la collectivité, pourraient passer le saut, sans se mettre en péril sur leurs finances. Donc, il y a effectivement un choix à faire, politique, éminemment politique. Est-ce qu'on, la politique, est-ce que l'État, est-ce que la responsabilité politique dans son ensemble, c'est, comme je le disais en introduction, de s'orienter vers ceux qui ont besoin d'être aidés par la collectivité ou de donner les conditions aux plus riches de pouvoir accumuler du patrimoine? Je crois que la réponse, elle est claire, sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe, et je vais vous donner un exemple qui va dans le sens de votre question, je pense. C'est combien dépense l'État, tout dépense confondu, pour un logement social, et combien il dépense pour un logement, je passe le détail, mais c'est des dispositifs de défiscalisation privée. On va pas rentrer dans le détail, le temps ne le permet pas. Si on prend tout ce que l'État apporte pour construire un logement social, parce qu'il baisse la TVA, il la met à 5,5. Elle est montée à 7 il y a deux semaines, mais à 5,5 avant, parce qu'il donne des aides aux bailleurs sociaux pour construire du logement social, parce que, etc., etc. En gros, il donne 33 000 euros par logement en moyenne pour construire un logement social. Et pour permettre à quelqu'un qui a un peu du blé pour pouvoir investir dans la pierre et le mettre sur le parc locatif avec des défiscalisations, hein, Cellier, Robien, vous avez dû tous entendre de parler de cela, eh bien, c'est 50 000 euros par logement. 33 000, 50 000. Sauf que le logement social, il va être loué bien en dessous du marché, parce que c'est le deal qu'il y a avec les bailleurs sociaux. Je vous file du blé, je vous donne des prêts attractifs, mais vous allez devoir mettre votre loyer en dessous du marché et vous allez devoir le louer à celui qui en a besoin. Hein, c'est-à-dire à des personnes qui ont besoin d'être aidées par la collectivité. Mais les 45 000 euros par logement dans le Cellier, c'est pas ça. Ça fait sortir des logements qui, dans certains territoires, sont au-dessus du marché ou au niveau du marché. Et puis, ils sont pas sous conditions de ressources ou très faibles. De sorte que celui qui investit et qui a profité de ses 45 000 à 50 000 euros, il peut le louer à sa fille, à son fils, pendant 9 ans. Il prend les 45 000 euros et après, il fait ce qu'il veut du logement. Le logement social, il va rester social 100 ans, 120 ans, 140 ans. Donc, effectivement, c'est profondément insupportable, profondément injuste et tout simplement scandaleux. Et c'est vrai que on discute comme ça. Demain, je suis avec le ministre apparu pour discuter de ça. Oui, mais alors il y a des arguments. Oui, mais il faut aider le secteur économique pour l'emploi. Oui, mais il y a toujours des bonnes raisons. Sauf que derrière, on ne peut pas oublier ce que j'ai dit quant au nombre de personnes touchées par la crise et aux dégâts sociaux que cette crise provoque.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être?
Qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre tout ça? Comme je suis locataire à Paris, donc il y a chacun de nous, qu'est-ce qu'on peut faire?
Beaucoup de choses. J'en suis convaincu. D'abord, je pense qu'il y a moyen d'aller lutter dans les associations de lutte contre le mal-logement, qui prennent des formes très diverses en fonction de comment vous sentez mener ce combat. Hein. Est-ce que c'est en étant avec des associations qui font bouger la société civile, etc. Est-ce que c'est en apportant une aide directe pour aider à accéder aux droits des personnes ou accéder à un logement? Il y a aujourd'hui, et j'allais dire c'est à la hauteur de la crise, une multitude de lieux, d'associations qui sont auprès des mal logés, soit dans l'aide directe, soit dans l'accompagnement, soit dans le combat politique. Donc de ce point de vue-là, l'engagement citoyen auprès des mal logés et pour la lutte contre le mal logement me semble être une responsabilité qui peut être apportée collectivement et qui me semble très importante. Après, je pense qu'il y a un enjeu majeur sur la question politique. C'est-à-dire que vous voyez bien que vu l'ampleur du chantier, vu l'ampleur du problème, ça se limitera pas avec des miettes et des bricoles. Hein, c'est-à-dire qu'on pourra mettre en place un dispositif qui dépannera, ça sera toujours ça, quelques milliers de personnes, et puis on retombera plus bas l'année suivante ou le quinquennat d'après. Mais fondamentalement, la question est éminemment politique par rapport à la question de la maîtrise des prix, par rapport à la question de la priorité vis-à-vis des plus faibles ou la considération du problème du logement. Et donc, nous, on est convaincus à la Fondation Abbé Pierre aujourd'hui que, alors qu'on fait un rapport chaque année sur l'état du mal logement, que les médias commencent à relayer pas mal ce combat, ça suffit pas à faire bouger nos responsables politiques. Il va donc falloir passer par la mobilisation citoyenne très forte, pas seulement dans les associations de lutte contre le mal logement, mais aussi que chacun porte, à travers sa voix et les élections, la volonté d'une autre politique du logement. Sincèrement. C'est-à-dire que je crois que ça ne peut passer que par là. Et c'est pour ça que moi, je passe mes journées du matin au soir à aller voir des députés, aller voir le ministre, aller dans des associations, à rencontrer des gens pour faire une conférence ici ou là, pour dire à quel point ça pourrait être autrement, à quel point c'est pas une fatalité et à quel point ça n'a pas toujours été comme ça. Et c'est pour ça, par exemple, que nous, on a lancé une grande mobilisation. Vous pouvez aller voir sur le site, je fais un peu de pub, mais Mobilisation Logement 2012, où on a lancé une grande campagne de signatures depuis un mois et demi. Et en fait, on est en train d'établir un nouveau contrat social pour le logement. L'idée, c'est quoi ? C'est, on se disait jusqu'à maintenant, nous, on produit un rapport sur le mal-logement pour rendre visibles les phénomènes qui ne le sont pas, pour évaluer les politiques publiques, pour voir si, effectivement, comme vous disiez, monsieur, l'argent a été bien utilisé ou pas. Mais il faut aujourd'hui aller plus loin parce qu'il n'y a pas de force de proposition, y compris dans les partis politiques, sur cette question du logement qui est maltraitée, insuffisamment traitée. Et donc on s'est dit, il faut mobiliser très fortement les citoyens dans le premier temps, et c'est pour ça qu'on a lancé ça depuis septembre. Et le 1er février, on présente notre rapport mal-logement devant souvent 2000 personnes, après il est présenté en région. On aura les candidats à l'élection présidentielle, on le sait aujourd'hui, qui seront là. Et on va leur proposer un nouveau contrat social pour le logement, c'est-à-dire avec des axes de réforme, avec un socle de mesures, de propositions très concrètes sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer. Et ils le signeront, ils le signeront pas, mais ils nous diront pourquoi ils l'ont signé ou pourquoi ils ne l'ont pas signé. Mais on pense que, au-delà de la signature d'un contrat social comme ça, il faut que les citoyens fassent émerger ce problème et disent « Oui, nous voulons que vous, représentants politiques, qui nous représentez, vous traitez des vrais sujets qui préoccupent. Qui me préoccupe moi, qui préoccupe mon voisin, qui préoccupe mes enfants, qui préoccupe le citoyen que je croise dans la rue, et vous devez traiter de la question du logement. » Et là, il faut créer ces espaces. Nous, on en a créé un, il y en a d'autres, évidemment, pour peser dans le débat politique. Parce que de toute façon, la réponse, elle sera politique. Les associations n'arriveront pas à pallier ces phénomènes d'exclusion massifs. Il faut donc que ça soit une réponse politique au bout qui soit dans la durée structurelle. Hein, c'est dommage de ne pas pouvoir dire en trois mesures on réglerait le problème. C'est faux. Ce serait faux de dire ça. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas avoir peur de la complexité. C'est complexe. Ça touche tous les territoires. Ça touche tout le monde. Ça touche des problèmes économiques. Ça touche des problèmes de normes. Ça touche des problèmes de foncier. Ça touche des problèmes de solidarité. Ça touche. Ben c'est complexe. C'est complexe. Tant pis. Il faut accepter cette complexité et aller au bout de l'analyse et de la proposition.
Est-ce qu'il y a encore une dernière question ?
Bonjour, c'est juste pour, si vous pouvez détailler, sur la loi Cillier et leur incidence de la suppression en décembre 2011.
Donc, de petits projets tels qu'ils sont préconisés à la radio, comme ou qui font appel aux gens âgés, d'ouvrir leur maison, je crois que ça se fait à Rouen, d'ouvrir leur maison ou leurs appartements à des jeunes, ça ne vaut rien du tout. C'est des gouttes dans une mer à boire. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, pas loin d'ici, il y a une exposition sur des villages situés en Auvergne, je crois, où les maisons tombent en ruines.
Alors, sur la première question, c'est assez technique. Hein. Donc, puisque vous me posez la question, j'explique de quoi il s'agit. C'était la comparaison que je faisais tout à l'heure entre l'investissement de l'État sur un logement social et sur le privé. C'est quoi le cellier, comme vous dites ? C'est quoi ce dispositif ? L'idée, c'est de dire, puisque le logement social, puisqu'il manque de logements d'abord, locatifs, puisque le logement social ne suffira pas à répondre à l'ensemble des besoins, il faut flécher une partie de l'argent de ceux qui en ont vers la production de logements pour que ces logements soient mis sur le parc locatif. Hein. C'est-à-dire faire que l'argent, plutôt qu'elle aille en bourse, par exemple, elle aille sur le logement et que les gens qui ont du fric achètent des logements, fassent construire des logements et les mettent à disposition des locataires. Donc c'est ça le principe, mais pour pouvoir être attractif, pour pouvoir flécher cet argent, il faut que ceux qui ont de l'argent y trouvent un intérêt. Hein. On a beau peut-être pas aimer le marché, faut bien que ça marche quand même comme ça. Si vous le faites pas, et ça va être une des éléments de réponse, si vous le faites pas, il y aura pas d'argent là-dessus. Et elle ira ailleurs, en tant qu'investisseur. Le problème, c'est que ce principe, en tout cas nous, peut-être qu'il y a des gens qui seraient pas d'accord ici, mais ce principe ne nous dérange pas en soi, puisqu'on a besoin de logement et puisqu'on a besoin d'investissement sur cette question. Sauf que toute la question, c'est l'équilibre entre l'argent que dépense la collectivité et à qui va servir ces logements celliers. D'accord ? C'est-à-dire, nous, on pense que flécher une partie de l'investissement des investisseurs vers le logement pour sortir des logements à des loyers en dessous du marché, ce serait une contrepartie sociale, hein, en dessous du marché pour aider ceux qui ont des difficultés à se loger dans les conditions actuelles du marché, donc avec des loyers inférieurs au marché, et puis en les réservant à ceux qui sont en difficulté, pourquoi pas ? Mais ça n'a pas été le cas du cellier. Et c'est pour ça que nous, on a descendu ce dispositif. Non seulement il coûtait cher, je vous le disais, entre 45 000 et 50 000 euros par logement, mais en plus, il était loué à des prix, au niveau du marché parfois plus, à des endroits où on n'en avait pas besoin, parce que les investisseurs, ils n'en avaient rien à faire, de qui allait rentrer dedans, quoi. Donc ils se défiscalisaient, donc on a vu se multiplier des programmes en périphérie de villes qui sont même pas confrontées à des problèmes de logement, ce qui était complètement absurde, tout simplement parce que c'était un outil de défiscalisation. Donc c'était déconnecté des besoins. Donc, un dispositif qui... Donc on l'a condamné parce qu'il était mal calibré, même si on ne mettait pas en cause le principe lui-même. Et la réponse qu'on vient d'avoir, et c'est la question que vous nous avez posée, c'est qu'on vient tout simplement de nous annoncer, dans le plan de rigueur, qu'il serait supprimé complètement. Donc là, on n'est pas dans une réponse à demi-mot. Hein. Ce n'est pas une demi-mesure. C'est, alors que nous, on demandait une réorientation sociale du dispositif, on le supprime. Ce qui fait que, du coup, l'impact, c'est quoi ? Ben, il va y avoir moins de logements locatifs privés mis à disposition de ceux qui sont à la recherche d'un logement. Alors, sans doute, pour une partie qui était scandaleuse, tant mieux, mais pour l'autre partie qu'on aurait pu recadrer, c'est dommage. Donc nous, ce qu'on demandait, c'était pas sa suppression, mais c'est son recentrage vers la réponse aux besoins sociaux. Et ça va avoir un impact sur les secteurs économiques très fort, sur l'emploi, parce que ça va baisser. Mais je vous fais le pari, ici ce soir, que très vite un nouveau dispositif va sortir, parce que les lobbies dans le secteur du bâtiment sont beaucoup plus efficaces que la Fondation Abbé Pierre et gagnent souvent beaucoup plus. Et en général, pour vous donner un exemple, le Robien, qui était le dispositif d'avant, on a dénoncé pendant 4 ans en disant c'est scandaleux, scandaleux, scandaleux. Un jour, le ministre dit oui, vous avez raison, c'est scandaleux. On va le supprimer. 2 mois après, le cellier sortait, il était encore plus scandaleux parce qu'on pouvait louer à ses enfants, à sa famille, à des prix encore plus hauts. Donc, vous voyez comment l'ironie peut parfois être poussée à son comble. Ou là, c'est pas de l'ironie, c'est de la... Enfin bon, merci. Le cynisme, je cherchais aussi. Sur votre question, non, vous avez bien sûr que tout ce qui est mis en œuvre, la colocation, les systèmes de logement intergénérationnel, c'est ça, je crois que vous évoquez, une personne qui a un grand logement et qui, parce qu'elle est seule maintenant ou parce qu'ils sont en couple, âgés mais les enfants sont partis, mettre à disposition une chambre, une partie du logement, ou j'allais dire. Tout ce qui répond aux besoins, tout ce qui va permettre d'être une réponse pour une personne est nécessaire. Hein. Donc nous, c'est ce qu'on fait à la Fondation. On pose des petites pierres, on apporte des réponses à une personne, 10 personnes, 100 personnes selon le dispositif. C'est toujours bon à prendre. Mais effectivement, je crois que vous l'avez dit, ce sont vraiment des petites pierres. Hein. C'est-à-dire que il faut le faire parce que derrière, ce sont des gens, des enfants, des femmes, des hommes. Mais la réponse. À l'étendue de la crise, elle doit être ailleurs. Elle doit être effectivement politique dans le recentrage, économique dans la définition des priorités. Donc nous, on pousse beaucoup et on accompagne beaucoup d'associations, par exemple, qu'on finance pour développer ce type d'initiative. Hein. C'est pas négatif par rapport à ces initiatives. Mais j'essaie d'exposer le problème à son échelle plutôt macro qui a des conséquences jusqu'aux personnes. Hein. Et puis, oui... Sur votre deuxième question, c'était sur le parc pourri, quoi. Alors, c'est effectivement un phénomène majeur. Vous voyez bien, on est 65 millions en France d'habitants, et il y en a 12 millions en Île-de-France. Rien que ça, ça donne la mesure de l'évolution entre le monde rural, périurbain, urbain. Alors, il y a deux dynamiques qui sont en cours. Il y a effectivement des zones rurales délaissées. Par contre, il y a un retour vers le périurbain, pour des raisons de logement notamment, c'est-à-dire que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, faute de pouvoir se loger dans les centres-villes ou à proximité de son lieu de travail ou je ne sais quoi, les gens vont chercher là où ils peuvent encore se payer en accession à la propriété un logement ou cherchent du locatif là où il y en a. Et donc, il y a un phénomène de périurbanisation quand même, c'est-à-dire que les zones intermédiaires entre la ville et la campagne sont plutôt aujourd'hui sollicitées. Après, que faire sur la désertion du monde rural? C'est une problématique beaucoup plus large que celle du logement, c'est celle de l'aménagement urbain, c'est celle des services publics, c'est celle de la création des pôles d'activité décentralisés en quelque sorte par rapport aux grands centres de transport, d'information, etc. Et là, c'est une politique beaucoup plus générale et je pense qu'il faudrait faire une séance entière à la question. mais effectivement, c'est une réalité que vous décrivez absolument importante.
Une dernière question et puis après on va clore la séance.
C'est pas une question, c'est une invitation. Je pense à aller voir tous le film Squat.
Merci de cette proposition. Pour prolonger la réflexion, vous trouverez aussi des livres qui sont sur la table, un dossier documentaire qui est réalisé, ce qui est disponible sur notre site internet, et puis très vite, cette conférence qui sera aussi en ligne. Et puis, je vous remercie beaucoup, Christophe Robert, pour avoir accepté notre invitation. Merci.